Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition du 28 juillet 2017, deux jours de deuil national au Cameroun en mémoire des victimes du naufrage d'un navire militaire. Au Burkina Faso, la justice lance un mandat d'arrêt contre François Compaoré, frère de l'ancien président Blaise Compaoré, en rapport avec l'affaire Norbert Zongo. Sénégal, dernier jour de la campagne électorale pour les législatives de dimanche. Et puis la Russie riposte à l'adoption de sanctions par le Congrès des États-Unis en ordonnant une réduction drastique du personnel diplomatique américain à Moscou. Et le monde aujourd'hui, c'est aussi l'économie et les sports, juste après le journal. Le Cameroun observe deux jours de deuil national depuis ce matin à la mémoire des victimes du naufrage le 16 juillet d'un navire de l'armée en route pour la péninsule de Bakassi. Trois survivants avaient pu être secourus et le dernier bilan fait état de 11 morts et 23 disparus. Ekiabadou.
Une cérémonie d'hommage présidée par le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo, a eu lieu à Douala. Les cercueils de 11 victimes du naufrage, 9 militaires, 1 policier et 1 civil, y ont été présentés avant la remise des dépouilles aux familles pour inhumation. Les drapeaux ont été mis en berne sur toute l'étendue du territoire et dans les postes diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Les deux jours de deuil national s'achèvent samedi. Le tragique accident est survenu à la suite d'une mauvaise météo couplée au déséquilibre du bateau. Parti de Limbé dans le sud-est du Cameroun, avec à son bord 37 personnes, des militaires et civils, le navire militaire a chaviré près de Bakassi. Selon les autorités militaires, l'épave a été localisée à 35 mètres au fond de la mer et les efforts se poursuivent pour extraire les corps des autres victimes.
Au Cameroun toujours, Reporters sans frontières dénonce l'emprisonnement de notre confrère correspondant en langue haoussa pour RFI, Ahmed Abba, condamné à 10 ans de prison en avril par un tribunal militaire. Il aura passé dimanche 2 ans en prison, pour rien, a commenté l'ONG, qui par ailleurs a dénoncé une, je cite, « parodie de justice » et demandé la libération du journaliste. RFI a de son côté condamné le jugement prononcé contre, je cite, « un journaliste qui n'a fait qu'exercer son métier ». Ahmed Abba a été condamné pour non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. En République démocratique du Congo, une personne a été tuée, 4 autres ont été blessés, 20 de prisonniers ont pris la fuite aujourd'hui lors d'une évasion de la prison centrale de la ville de Bukavu, dans l'est du pays. C'est ce qu'a déclaré un responsable local depuis Bukavu, le reportage d'Ernest Mouero.
C'est en début d'après-midi de ce vendredi 28 juillet qu'ont été entendus des coups de feu à la prison centrale de Bukavu, créant la panique dans les environs, voire une perturbation de la circulation routière dans cette partie au cœur de la ville. Selon le maire de la ville de Bukavu, Philemon Yogolelo, les bilans provisoires de cette évasion fait état d'un prisonnier tué, 20 d'autres évadés et 10 de blessés, dont 4 grièvement. Le maire précise que la plupart des blessés sont essentiellement des civils, venus rendre visite aux détenus et qui ont été soit touchés par des éclats de grenades ou carrément des détenus touchés par balles quand ils tentaient de s'évader. D'autres témoins parlent également d'au moins un militaire commis à la garde blessé. Des sources policières parlent d'une grenade dégoupillée de l'intérieur de la prison et jetée devant l'entrée de ce lieu carcéral au moment d'une visite et qui aurait créé une situation de panique et de confusion. Les unités de la police militaire basées à la prison ont réagi rapidement au point de récupérer certains évadés qui avaient déjà franchi la porte. Pour le moment, difficile de dire exactement combien de prisonniers se sont réellement évadés de cette prison. Néanmoins, nous apprenons qu'une commission vient d'être mise sur pied pour effectuer les comptages de détenus encore en prison et établir les causes de cette évasion. De Bukavu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Au Gabon, des proches du président Ali Bongo Ondimba ont annoncé aujourd'hui qu'ils se mobilisaient contre les mensonges de l'opposant Jean Ping, c'est comme cela qu'il les qualifie, 2 jours après son retour au Gabon, après une tournée européenne où il a répété qu'il avait gagné l'élection présidentielle de 2016. Ces personnalités veulent soutenir l'action d'Ali Bongo en s'attaquant aux personnes qui disent-elles, répandent des mensonges sur le Gabon. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Pacome Mubele Boubebeya. Les intervenants ont traité M. Ping de menteur invétéré pathologique, reprenant ses affirmations dans la presse étrangère sur les violences post-électorales de septembre dernier. La justice burkinabé a lancé un mandat d'arrêt international contre François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré, dans l'affaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo en décembre 1998. C'est ce qu'a appris aujourd'hui l'AFP auprès de l'avocat de la famille Zongo. Monsieur Compaoré est poursuivi pour incitation à assassinat, c'est ce qu'a déclaré l'avocat de la famille Zongo, précisant qu'il y a eu 4 crimes, l'assassinat de Norbert Zongo et de 3 de ses compagnons. Journaliste d'investigation et directeur de publication de l'hebdomadaire L'Indépendant, Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été retrouvés morts carbonisés dans leur véhicule le 13 décembre 1998 dans le sud du Burkina. Auteur de plusieurs enquêtes retentissantes démontrant la mauvaise gouvernance sous le régime du président Compaoré, M. Zongo travaillait au moment de son assassinat sur la mort de David Ouédraogo, chauffeur de François Compaoré, le frère cadet donc, et conseiller économique du président Compaoré, surnommé le petit président. Dernier jour de campagne électorale au Sénégal avant le scrutin de dimanche. Plus de 5 millions d'électeurs doivent choisir les 165 députés, dont 15 représentants de la diaspora. Abdourahmane Dia.
La campagne électorale se termine dans un climat tendu et des soupçons de fraude, avec une opposition qui accuse le pouvoir d'avoir délibérément escamoté la distribution des cartes d'électeurs. Des dizaines de milliers de personnes n'ont toujours pas reçu leur carte qui leur permettrait d'effectuer leur devoir de citoyen. Mais selon le ministère de l'Intérieur, plus de 70% des inscrits ont reçu leur carte. De son côté, le Conseil constitutionnel a approuvé la requête du président Macky Sall de faire voter ceux qui se présenteraient dimanche avec un récépissé d'inscription accompagné d'une pièce d'identité comme le passeport ou le permis de conduire. Le retour dans l'arène politique de l'ancien président Abdoulaye Wade, battu aux élections de 2012, et l'emprisonnement du maire de Dakar, la capitale, qui dirige une des 47 coalitions, ajoutent à la tension politique. Le chef de l'État, Macky Sall, cherche à conserver une majorité au Parlement à 2 ans de la présidentielle de 2019.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Actualité internationale à présent, la Russie, je vous l'annonçais en titre, est passée à la riposte en annonçant aujourd'hui une prochaine réduction de la présence diplomatique américaine sur son territoire après l'adoption par le Congrès à Washington de sanctions pour son ingérence présumée dans la présidentielle aux États-Unis. Les précisions tout de suite de John Lyndon.
2 jours après la Chambre des représentants, le Sénat a adopté hier par 98 voix contre 2 un projet de loi dénoncé par Moscou, mais aussi critiqué dans l'Union européenne. Il revient désormais à Donald Trump de décider s'il entérine cette position dure envers la Russie ou s'il opposera son veto. Mais sans attendre, le ministère russe des Affaires étrangères a pris des mesures de rétorsion. Ce dernier a demandé à Washington de réduire à partir du 1er septembre à 455 les effectifs du personnel de son ambassade et de ses consulats en Russie. Moscou a par ailleurs suspendu l'utilisation par l'ambassade des États-Unis d'une résidence en périphérie de la capitale russe et d'entrepôts. Une telle réduction revient à ramener le personnel des représentations diplomatiques américaines au même niveau que celui du personnel des représentations russes aux États-Unis, a précisé le ministère, qui dit se réserver le droit de prendre de nouvelles mesures visant les intérêts américains. L'ambassadeur des États-Unis à Moscou a exprimé sa grande déception et protesté après l'annonce de ces mesures. En visite en Finlande hier, le président russe Vladimir Poutine avait prévenu que Moscou allait répondre à l'insolence des États-Unis.
Au Pakistan, le premier ministre Nawaz Sharif a été chassé du pouvoir aujourd'hui. La Cour suprême du pays a rendu un arrêt disqualifiant pour corruption le chef du gouvernement pakistanais, provoquant sa chute et celle de son gouvernement. Salwa Jafari.
Devant la Cour suprême à Islamabad, les membres de l'opposition n'ont pas caché leur joie. À leur tête, Fawad Chaudhry du parti Tahrir et Insaf.
Les tribunaux du Pakistan ont tenu le premier ministre responsable. On lui a demandé la provenance de sa fortune et de celle de ses enfants qui s'est multipliée plusieurs fois au cours de son mandat. Aujourd'hui est un jour de victoire pour le Pakistan.
En effet, les Sharifs sont soupçonnés d'avoir dissimulé la vérité sur des sociétés et biens immobiliers détenus via des holdings offshore, notamment de luxueux appartements londoniens. Le jugement ordonne aussi à l'autorité anticorruption de lancer une nouvelle enquête qui pourrait se traduire par des poursuites judiciaires contre cette famille. Le parti du Premier ministre a confirmé peu après que Nawaz Sharif avait bien quitté son poste. Son départ entraîne automatiquement celui de son gouvernement. Sharif, surnommé le lion du Pendjab, n'aura ainsi mené à terme aucun de ses 3 mandats comme chef du gouvernement. Il avait déjà été contraint à la démission en raison d'accusations de corruption en 1993. Son 2e mandat, démarré en 1997, avait lui aussi tourné court en 1999 à la suite d'un coup d'état militaire. Et M. Sharif avait été contraint à plusieurs années d'exil en Arabie Saoudite.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Dili Diko.
En RDC, le secteur des assurances est en pleine libéralisation et l'opération devrait prendre fin cette année. L'autorité congolaise de régulation des assurances dit avoir reçu des requêtes d'au moins 15 compagnies. Le gouvernement ouvrira une procédure de soumission en août et devrait attribuer les licences en 2018. La RDC espère créer un marché annuel de 500 millions de dollars dans le secteur des assurances. La Banque mondiale révèle dans une nouvelle étude que la qualité de la gouvernance en Afrique subsaharienne a connu un recul dans plus de 15 pays en 2016. Ce recul a été noté dans les domaines de la gestion économique, des politiques structurelles, des politiques d'insertion sociale et d'équité. Selon la Banque mondiale, cette contre-performance s'explique en partie par la chute des prix des matières premières. Certains pays africains ont renforcé la qualité de leur gouvernance et de leurs institutions. C'est le cas du Rwanda qui arrive en première position, suivi du Sénégal et du Kenya. Au Maroc, le Crédit Agricole va lancer une filiale spécialisée dans la finance islamique. Agdar Bank devrait ouvrir en octobre avec une vingtaine d'agences. Le budget initial de plus de 20 millions de dollars pourrait doubler dès la première année. Pour réaliser ce projet, le Crédit Agricole marocain s'est associé à l'ICD, une institution islamique pour le développement du secteur privé qui détiendra 49% d'Agdar Bank.
Son patronyme est lié au cinéma, au Burkina Faso, mais son truc à lui, c'est le sport. Bonsoir, Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir, Anastasie. Bonsoir à tous.
Alors, on va commencer avec les Jeux de la Francophonie à Abidjan, Côte d'Ivoire-Maroc pour la finale football.
Tout à fait, Anastasie. Courte victoire d'un but à zéro en demi-finale pour les Lionceaux de l'Atlas devant les Léopards de la RDC. Assommé en fin de rencontre à la 83e par un but de Hamza Anouri. Un peu plus tôt, dans la première demi-finale, les Éléphantaux se sont imposés 2-1 devant les Aiglons du Mali. Les buts ivoiriens signés Souleymane Diaby à la 18e et Ake Arnaud Loba à la 79e. Mohamed Camara avait entre-temps égalisé pour les Maliens à la 58e. La finale se jouera ce dimanche.
Le suspense est à son comble. En basket féminin, le Canada est le premier pays qualifié pour la finale.
Oui, les Canadiennes ont disposé de la Fédération de Wallonie-Bruxelles 55-45. Elles connaîtront leurs adversaires à l'issue de la 2e demi-finale en cours entre la France et le Sénégal. Dans les matchs de classement, le Mali a fini à la 5e place en battant la Roumanie 74-69. La Côte d'Ivoire est 7e grâce à sa gifle administrée à la Guinée-Conakry 80-31. Le Cameroun termine 9e suite à sa victoire sur le Luxembourg 56-39. Et enfin, la Tunisie prend la 13e place après avoir dominé le Bénin 94-46.
Allez, Yacouba, on quitte les Jeux de la Francophonie pour Zamalek, Augusto Ignacio et Limogé.
Oui, après 4 mois à la tête du club égyptien, le coach portugais a été démis de ses fonctions à cause du manque de résultats. Le Zamalek n'a pas pu se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, mais c'est surtout la défaite face à Al Ahed du Liban au championnat arabe de la semaine dernière qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Et pendant ce temps, Neymar continue de faire parler de lui avec le FC Barcelone.
Oui, ça continue toujours en plein feuilleton sur son éventuel transfert au Paris Saint-Germain. Neymar a eu une altercation avec un de ses coéquipiers lors d'un entraînement pendant la tournée des Catalans ici ou même aux États-Unis. Selon une vidéo diffusée par le Daily Mail, La star brésilienne en est venue aux mains avec le latéral Nelson Samedo, récemment transféré du Benfica au Barça.
Voilà, Passion Sport, il s'appelle Yacouba Ouédraogo, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Place au dossier d'actualité. Boko Haram a de nouveau frappé au Nigeria. Plus de 50 personnes ont été tuées mardi dans une embuscade menée par l'organisation djihadiste contre une mission pétrolière dans le nord-est du pays. Ce bilan est l'un des plus lourds imputés aux islamistes au cours des derniers mois et il pourrait encore s'alourdir. Alors comment est-ce possible alors que la défaite de Boko Haram a été annoncée par les autorités? Morgane Guiriec a posé la question au docteur Oudou Ayouba, professeur de sciences politiques et relations internationales à l'université Ahmadou Bello à Zaria, dans l'état de Kaduna.
Vous savez, il y a souvent quelquefois des déclarations politiques pour apaiser la population. C'est vrai que ce n'est pas comme avant, la situation est calme. Les forces de sécurité tendent à baisser la garde. Mais Boko Haram existe toujours. Hein. Il y a des poches de résistance vers Maiduguri dans l'état de Gornou.
Qu'est-ce qui empêche de complètement éliminer Boko Haram?
Ce sont des civils, hein. Ils sont dans la population, ils sont aussi parmi les réfugiés, ils se cachent dans la population. C'est un peu difficile pour l'armée, ils ne peuvent pas être identifiés comme ils n'ont pas d'uniforme. Ils traversent la frontière, reviennent. Bon.
L'organisation, pensez-vous, bénéficie-t-elle de soutien au sein de la classe politique?
Pas du tout, bon, il y a eu des spéculations sur ça, des politiciens qui ont été accusés de soutenir Boko Haram, mais c'était autant du président Jonathan. En ce temps-là, c'est vrai qu'il y a eu, au début, certains voulaient utiliser Boko Haram de fin politique. Donc, quand Boko Haram est devenu des criminels, donc tout le monde s'est retiré du soutien.
Le Nigeria a-t-il suffisamment de moyens pour lutter contre Boko Haram, des moyens militaires? Ou alors est-ce qu'il y a aussi un problème de volonté politique?
Les militaires ont beaucoup de moyens actuellement. Hein, dans ce gouvernement de Buhari, ils ont beaucoup de moyens. Bon, c'est vrai que ce n'est jamais suffisant quand on a affaire à ce genre de conflit. L'État lutte contre sa propre population. Il y aura toujours des poches de résistance parce que certains combattants de Boko Haram, ils ont déjà pris l'habitude de se battre et de vivre dans ce système-là.
Vous l'avez évoqué, un des problèmes de Boko Haram, c'est aussi qu'une partie de la population est dans la lutte.
Il faut voir l'histoire de Boko Haram. Au début, Boko Haram était très populaire dans cet endroit-là. L'État n'a pas toujours été présent. C'est vrai que maintenant, ils sont plus populaires à cause de ce qu'ils ont fait. Mais ils ont toujours des soutiens parce que les combattants de Boko Haram viennent de ces populations-là, donc ils ont des relations. Qui fournit Boko Haram en nourriture et armement?
Pour vous, la solution, elle est où?
C'est vrai que puisqu'il y a des attaques, c'est la solution militaire qui est privilégiée maintenant. Mais je pense qu'il faut aussi associer à cette solution militaire une solution économique et politique.
C'était l'analyse du docteur Oudou Ayouba, professeur de sciences politiques et relations internationales.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous inviter à participer à l'émission interactive À votre avis à 18h temps universel ce vendredi sur VOA Afrique. Que dire sur les campagnes électorales en Afrique? Ont-elles une grande influence sur les électeurs? Comment les candidats approchent-ils la population dans votre pays? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Arrivée massive de plus de 6000 réfugiés en provenance du Niger dans la région du lac Tchad depuis une semaine. Selon un communiqué du HCR, cet événement constitue l'une des plus grosses vagues de réfugiés en provenance de cette région depuis au moins 2 ans. Arzouma Compaoré.
On a reçu une information des autorités tchadiennes lundi passé de l'arrivée de plus que 6000 personnes en provenance du Niger, dont 1337 ménages selon le premier rapport. Donc ces personnes ont été accueillies sur un site tout près de Bagassola, dans la région du lac Tchad.
Quelle est l'action qu'au niveau du HCR, il faut mettre en œuvre pour pouvoir assurer leur sécurité?
Comme réponse humanitaire, et nous avons engagé le système des Nations Unies et des partenaires avec qui on travaille ici au Tchad pour monter une réponse immédiate à cette situation. Donc on a eu plusieurs réunions de coordination pour d'abord comprendre le profil de cette population. Donc, l'OHR, pour sa part, a expédié déjà ce qu'on appelle le non-food item sur place pour couvrir les besoins de 10 000 personnes. Donc là, ce sont le bâche, les outils pour cuisiner, les nattes.
Quelles sont les mesures qui sont prises pour s'assurer qu'il n'y a pas des membres justement de Boko Haram qui ont infiltré justement cette population des réfugiés qui arrivent?
On collabore avec les autorités pour assurer que la ville demeure humanitaire et politique et civile. Donc là, mais les responsabilités restent avec les autorités pour faire le triage des populations qui traversent la frontière pour assurer la nature civile. Mais pour le moment, on n'a pas des indications que parmi cette population, il y a des éléments armés.
Aujourd'hui, la situation des réfugiés au niveau du Tchad, c'est une situation qui est sous contrôle ou bien le pays est complètement débordé?
On vient de sortir cette semaine d'une forum de 2 jours et demi avec le gouvernement et toutes les autorités centrales et régionales pour parler de la question de l'inclusion socio-économique des réfugiés ici au Tchad. Le Tchad compte inclure les réfugiés dans le plan national, régional et local de développement entre 2017 et 2021. Il y a une parfaite collaboration maintenant avec la Banque mondiale et le gouvernement de Tchad et le HCR qui progressent dans le sens de cette inclusion socio-économique des réfugiés pour ceux qui veulent rester au Tchad et qui ne voulaient pas pour le moment rentrer dans leur pays d'origine.
Edward O'Dwyer, chef du bureau adjoint du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les ressortissants maliens sont très nombreux à Abidjan et plus largement en Côte d'Ivoire où cette diaspora travaille dans tous les domaines. La plupart des jeunes maliens envoient régulièrement de l'argent au pays, comme l'a constaté Kassim Traoré.
À Abidjan, les Maliens sont les plus nombreux. La diaspora malienne en Côte d'Ivoire, c'est plus de 3 millions de personnes selon les chiffres officiels. La plupart sont des jeunes très actifs dans le secteur informel. Ils font des petits métiers ou encore de la vente de fruits et légumes comme Issa Diallo, venu de la région de Koulikoro.
Je vends coco à Côte d'Ivoire, mais je suis à Trècheville. La question de vendre coco là, bon, c'est cher comme ce n'est pas cher. Je vends une noix à 150. Je prends les cocos là à 2 quartiers. Il y a un quartier qui s'appelle Pobou, je prends là-bas. Et il y a un autre quartier qui s'appelle Adjamé. Je prends les deux. Au cours d'un jour, une seule journée, je peux vendre 100 noix de coco comme ça, ou bien 200 noix.
Trècheville, Adjamé et Abobo sont les communes de la capitale ivoirienne qui accueillent plus de Maliens. Certains sont des grands commerçants, mais d'autres détiennent des petites boutiques ou des rôtisseries. Mahamadou Sissé est venu de Tombouctou.
Je vends à Venissaire 17. Parce que je vais avoir mon nourriture pour avoir tout. Et non, c'est ça seulement qui est de mon travail. Il n'y a pas au travail si c'est pas. Alhamdulillah, je ne l'ai pas dit.
Ça fait combien de temps que tu es dans ça?
Ça m'a trouvé 15 ans de ça. Je prends un abattoir pour venir ici avec. Je vends. Et je gagne les poulets. Je paye aussi. Je ne l'ai pas dit. Ça, là, je ne l'ai pas dit.
Né et grandi à Abidjan, Sofiane Sila est un jeune Malien qui est à la recherche de son premier boulot.
Je suis télécom de formation, mais vu que je n'ai pas encore d'emploi, je suis là en freelance pour pouvoir me prendre en charge. Une bonne expérience, notre centre ici s'ouvre le matin à partir de 8h30 et se ferme tard dans la nuit, pratiquement voire 1h du matin. Actuellement, le problème majeur se situe au niveau du Wi-Fi. difficile. Mais je pense que nous sommes en train de travailler dessus et ça va s'améliorer.
Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire font aussi des transactions commerciales via le port autonome d'Abidjan. Ismaïla Touré est opérateur économique malien basé à Markori, à Abidjan.
Nous sommes un pays qui n'a pas une ouverture sur la mer, donc les transactions, c'est forcément la Côte d'Ivoire ou le pays comme le Togo. Donc, quand la Côte d'Ivoire est malade, ça se ressent facilement dans les autres pays. Et donc, tout ce qu'on souhaite, c'est que vraiment les acteurs de la scène politique et sociale de la Côte d'Ivoire puissent vraiment s'entendre pour conduire ce pays-là vers des destinées meilleures, comme le père de la nation, Félix Bon, il avait toujours souhaité.
Huitième jeu de la francophonie oblige. Cette forte diaspora fera la mobilisation ce vendredi 28 juillet 2017 pour aller supporter les footballeurs maliens qui jouent en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Abidjan, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, le Sénat a rejeté aux petites heures du matin l'abrogation partielle de l'Obamacare, la loi emblématique sur l'assurance maladie de la présidence de Barack Obama. Trois sénateurs républicains, dont John McCain, à peine sorti d'une opération d'une tumeur au cerveau, ainsi que 48 démocrates, ont voté contre le projet de loi présenté par les dirigeants républicains. Alors est-ce un nouveau revers pour le camp du président Donald Trump? C'est la première question que Jacques Aristide a posée à Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride. Écoutons-le.
C'était une des grandes promesses de sa campagne électorale l'année dernière. Mais le problème, c'est que les conservateurs et les modérés dans le Parti républicain ne peuvent pas se mettre d'accord sur un plan pour l'avenir. C'est ça. Et c'est très complexe. Il y a des problèmes de fédéralisme. Par exemple, il y a des subventions en Obamacare pour les indigents. Ça s'appelle Medicaid. En Alaska, en Maine, d'autres États, les républicains, même s'ils ont voté contre Obamacare, ils voulaient l'abroger il y a 2 ans. Ils ne veulent pas perdre ces subventions. Et les gouverneurs républicains dans ces États ne veulent pas perdre ces subventions aussi. Donc, d'abroger l'Obamacare, c'est très difficile.
Justement, j'allais vous demander pourquoi la grande majorité des républicains veulent-ils démanteler l'Obamacare et vont-ils revenir à la charge après cette défaite?
Oui, enfin, voilà les complexités. La loi oblige les individus, les maisons d'affaires d'acheter les assurances maladie. Ça, c'est bon. Mais le problème, c'est que le marché dans le secteur privé a des difficultés à donner des plans à des gens. Et il y a des comtés aux États-Unis, je ne sais pas combien, mais en Ohio, je crois, il y a 19, où il n'y a pas de plan d'assurance maladie. Il n'y a pas de compagnie du secteur privé qui offre les plans d'assurance maladie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui sont obligés par la loi d'acheter les assurances maladie, mais il n'y a pas de compagnie capable de l'offrir parce qu'il y a des grandes pertes pour ces compagnies. Donc ça, c'est un des grands problèmes pour les républicains qui veulent abroger tout recommencer.
Et dans un tweet, le président Trump suggère de nouveau qu'il faut laisser l'Obamacare s'écrouler, ensuite négocier. Est-ce un scénario possible?
Oui, bien sûr. Il y a des faits empiriques. Ça continue à s'écrouler. Le problème pour le président et pour le parti républicain, c'est qu'il faut faire quelque chose. Parce que si les gens qui cherchent des assurances maladie, qui n'ont pas les moyens de payer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ce ne serait pas peut-être acceptable pour les élections de mi-terme l'année prochaine. Ils font rien. D'une façon rhétorique, ça c'est très bien. Alors, laisse le système écouler, on va tout recommencer plus tard. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec des millions d'Américains qui sont en train de souffrir d'une situation qui est très difficile de comprendre et qui coûte très cher?
Le politologue Richard Conley, joint à Gainesville, en Floride. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la console, mise en onde Lionel Gaïma. Présentation Anastasie Tudiech. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Bonsoir l'Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.